Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et on entame la deuxième heure de BFM Patrimoine en filant sur les marchés, retrouver Antoine Larigauderie qui scrute pour nous la séance du jour. Que se dit-on sur les tables, Antoine ? Je fais n'importe quoi, il faut le dire comme ça. L'heure, elle commence par d'abord l'actu éco avec Raphaël Couder. On se prend les pieds dans le tapis, c'est les sorcières, ça doit être ça. Je ne vois que pas d'autre explication.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, ce matin, le sommet du G7. Les dirigeants des grandes puissances se réunissent jusqu'à dimanche à Hiroshima, au Japon, avec en ligne de mire de nouvelles sanctions contre la Russie. Les États-Unis ont ouvert la marche ce matin en ajoutant 70 nouvelles entités russes à leur liste noire des exportations. Les diamants russes sont également dans le viseur des pays occidentaux. L'Union européenne affirme, elle, d'ores et déjà qu'elle va limiter le commerce de ces pierres précieuses, les diamants dont les exportations ont rapporté 5 milliards de dollars à la Russie en 2021. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, des progrès réguliers réalisés dans les négociations sur la dette. Voilà ce qu'affirme la Maison-Blanche cette nuit. Le plafond de cette dette sera atteint le 1er juin si le Congrès ne vote pas pour le relever, ce qui entraînerait un défaut des remboursements de la première économie mondiale et donc une tempête financière. Ce scénario catastrophe semble quelque peu s'éloigner depuis ces dernières heures. Le chef des Républicains affirme lui aussi entrevoir une percée dans les pourparlers. Disney décide d'annuler un important investissement en Floride, un campus à 900 millions de dollars et pourvoyeur de 2000 emplois près de son parc d'attractions. Une décision justifiée par un besoin de faire des économies, mais qui intervient aussi en plein conflit entre Disney et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui vient d'annuler le régime de faveur dont bénéficiait le groupe dans son état. Ron DeSantis jugeant Disney trop progressiste sur les questions sociétales. Et puis ChatGPT débarque sur smartphone. OpenAI vient de lancer une nouvelle application mobile, pour l'instant uniquement disponible aux États-Unis et sur smartphone, mais bientôt partout ailleurs. L'appli va permettre, comme sur le site web, de discuter avec cette intelligence artificielle et surtout de lui demander de rédiger des messages ou bien de suggérer des idées, de quoi permettre une adoption encore plus massive de cet outil déjà utilisé par près de 200 millions de personnes.
Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Couder, donc chaque heure pour lire l'actualité économique. Et nous, c'est l'heure maintenant vraiment de se connecter au marché action et de retrouver Antoine Larigauderie.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Alors Antoine, que se dit-on sur ce marché pour cette fin de semaine ?
Eh bien, peut-être les 7500. On est à 7495, là, en ce moment, en progression de 0,65%. Alors, les sorcières nous aident pas forcément à avoir une tendance plus décidée ou plus de volume. On reste quand même sur des volumes inférieurs à 500 millions d'euros d'actions négociées. Ça pourrait s'activer dans les prochaines heures avec l'expiration des contrats des options sur indice. Mais pour le moment, on reste quand même sérieusement bien orienté. On fait un petit peu plus que la hausse d'hier en clôture. On a un Eurostock 50 qui gagne même un peu plus de terrain, plus 0,8%. Et plus 0,7% pour le DAX à Francfort. Climat positif, hein, encore une fois, avec des États-Unis qui semblent vouloir mettre la main à la pâte et résoudre une bonne fois pour toutes ce problème de plafonnement de la dette qui met de la pression sur les marchés. Et un CAC 40 qui, tout doucement, n'est plus qu'à moins d'une centaine de points de ses records absolus. On croit rêver, mais c'est pourtant la vérité. Du côté des valeurs qui signent les plus fortes hausses sur l'indice vedette parisien, on a Stellantis qui a pris le relais à plus 2,17 à 15,47 parce que STMicroelectronics est bien orienté depuis le début de la séance avec une hausse de 2% à 42,01 €. Le secteur des semi-conducteurs qui est très bien orienté avec Soitec aussi en tête des progressions du SBF 120, plus 3,38%, 126,95 €. À noter Eramet qui s'intercale avec plus 3% à 92,30 €. Et puis on a toujours une forte hausse d'Air France KLM à plus 2,5%, 1,73 €. Les valeurs industrielles, celles liées aux matières premières qui sont bien travaillées aussi avec Saint-Gobain qui gagne 1,8% à 55,42 €. Et Arcelor ArcelorMittal, plus 1,72 à 25,19. On met de côté les valeurs à tendance plus défensive, comme Orange, qui perd 1,9% à 11,12 €, Thales, moins 0,82 à 139,15 €, et la plus forte baisse du SBF 120, elle est toujours pour Ubisoft, moins 4%, 23,64 €. Le CAC 40 non plus 0,6%, aux portes des 7500, 7494, et l'euro remonte face au dollar et s'inscrit presque à 1,08. On est à 1,0794, Cédric.
Antoine Larigauderi, merci beaucoup. Antoine, tout de suite, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Et on accueille ce matin Nicolas Godzman et Jean-Jacques Friedman. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Nicolas Godzman, pour la Financière de la Cité et Jean-Jacques Friedman pour Vega IM. Votre sentiment sur ces marchés, d'abord, de voir finalement le CAC qui presque envers et contre tout, alors que, et on va en parler, il y a les questions de plafond de la dette, que les résultats n'ont peut-être pas tout à fait compensé les doutes sur la croissance, que il y a toujours cette crise de confiance et ces questions de restriction de crédit, que la Chine ne marche peut-être pas aussi bien qu'on y attendait. Bon, et ben malgré tout, Antoine nous le disait, on est plus qu'à une petite centaine de points de nos plus hauts historiques. Qu'est-ce qu'on se dit? Et encore, là, on est CAC nu, hein, si on mais les dividendes, ça doit être une autre histoire.
Oui, justement. Et vous avez raison. Envers un peu et contre tout. Et c'est ça qui était intéressant, justement. Parce que depuis le début, c'est une hausse qui est mal aimée, peu investie. Quand on regarde les flux depuis le début de l'année, on a vu des flux qu'en janvier. Là, on a vu encore des personnes qui ont écrété, des investisseurs, notamment sur les fonds diversifiés, qui ont écrété en avril. Donc, je crois qu'il n'y a pas la possibilité de nouveaux vendeurs. Donc, nous, on a essayé de tenir le plus possible notre surexposition. On va quand même l'écréter dans les jours à venir. Notre s'il n'y avait pas eu l'histoire du plafond de la dette, je pense qu'on aurait entendu encore un peu plus. Mais là, je pense que le risque est malgré tout asymétrique, malgré le discours un peu plus favorable qu'on a. On essayait de toucher les dividendes encore. De tenir encore. Et je pense qu'il y aura une transition de la surexposition à la sous-exposition qu'on va faire, mais pendant quelques semaines, peut-être jusqu'à l'été. Mais là, il y a vraiment ces hausses, depuis le début, mal appréhendées par beaucoup d'investisseurs. Donc, quand on a eu la chance, finalement, de bien s'exposer, on peut être un peu contrariant et tenir encore un peu. Mais c'est vrai que, rationnellement, il y aurait matière à redire. Mais ce qui était intéressant dans la consolidation, c'est qu'il y a eu toute une phase, finalement, depuis 6-7 semaines, où finalement les indices sont atones. Mais comme vous le disiez, il y a la perception des dividendes qui continue. Et pendant ce temps-là, il y a une rotation sectorielle qui s'est faite, où les valeurs défensives ont été jouées, mais les valeurs cycliques ont vraiment reculé fortement. Et donc, il peut y avoir un dernier petit mouvement de quelques pourcents avec ce rattrapage des valeurs cycliques qui ne sont pas très chères finalement.
Nicolas, comment vous percevez les choses sur ce marché ?
Je trouve qu'on a quand même aussi enlevé pas mal de mauvaises nouvelles. On avait quand même une inquiétude qui était quand même assez forte lors des crises bancaires et de voir à quel point on pouvait y avoir un impact sur la réalité économique. Or, ce qu'on voit pour le moment, c'est plutôt des indicateurs qui sont plutôt assez favorables. Quand je regarde notamment les prévisions qui avaient été faites par la Fed pour la croissance totale de l'année 2023, ils ont dit en mars qu'on arriverait à 0,4%. Or, avec la publication du T1, on était déjà à 0,3. Et maintenant, avec les premières anticipations qu'on peut avoir pour le Q2, on est plutôt déjà arrivé à 0,6-0,7 en plus, ce qui veut dire qu'on serait déjà à 1% de croissance, c'est-à-dire bien au-delà des prévisions faites par la Fed seulement au mois de mars dernier. Et en fait, on est toujours dans une configuration qui est un peu toujours la même, c'est-à-dire que depuis la pandémie, on a une reprise américaine qui est souvent sous-estimée, qu'on le voit ici également sur l'emploi, et que la résilience de l'économie américaine est quand même assez formidable. Et donc, dans ces conditions-là, en fait, on a toujours une situation qui est quand même relativement favorable. Et on a vu, d'ailleurs hier, les premiers discours de banquiers centraux, enfin des gouverneurs de la Fed, qui commençaient à indiquer peut-être qu'on aura quand même la place d'aller encore un peu plus haut en termes de taux d'intérêt, parce que justement la vigueur de l'économie américaine est telle aujourd'hui qu'on pourrait peut-être se le permettre. C'est pas encore sûr qu'on va aller dans cette direction-là, parce qu'on a encore des gouverneurs qui sont plutôt opposés à cette position-là, mais c'est quand même intéressant de voir que pour le moment, en tout cas, la force de l'économie américaine est telle qu'on pourrait peut-être aller un peu plus haut, et que les risques qu'on pouvait avoir il y a encore un mois ou deux mois avec la suite de ce qui s'est passé dans le secteur bancaire, pour l'instant, n'a pas des impacts suffisamment lourds pour pouvoir endommager le marché.
Bon, il y a quand même des questions. Là, vous êtes rassuré sur la question du plafond de la dette. Vous vous dites que c'est 88 milliards de dollars qui restaient dans la peau de Joe Biden. Ils vont suffire pour tenir jusqu'à un accord. On a joué à se faire peur et tout le monde prend conscience, ou au contraire, ça reste quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête du marché pour le moment.
Ça reste une épée de Damoclès. C'est-à-dire que on voit bien que partout, dans tous les domaines, il y a une telle polarisation que c'est difficile de se mettre d'accord. Et en plus, du côté républicain, quand on voit les tours successifs nécessaires à l'élection du speaker républicain, on voit bien que même dans le parti républicain, c'est extrêmement fracturé. Donc je crierai pas victoire trop tôt. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que, alors, en gros, il y a 1% d'écart quand même pendant une dizaine d'années entre le projet Biden et le contre-projet républicain. Et donc, s'il coupe la poire en deux, c'est quand même 0,5%, c'est pas neutre. Et il y avait une autre statistique qu'on avait vue et qui nous semblait intéressante, c'était quand on regardait historiquement ce qui s'était passé, on voyait qu'il y avait vraiment une contraction du déficit budgétaire après, finalement, ces phases de discussion assez prolongées. Donc ça devrait quand même aller dans le sens que la politique budgétaire, dans l'aspect favorable, devrait au moins aller dans le même sens que la politique monétaire dans les mois à venir ou dans les années à venir. Donc pas très bon pour la croissance, mais plutôt bon pour l'inflation et donc pour le plafonnement des taux. Mmh. Donc non, c'est un jeu où quelque chose... Le risque est asymétrique. Il y a évidemment moins de probabilités, mais c'est pas une fenêtre à enlever. Et comme je vous le disais, s'il n'y avait pas eu cet élément-là et qu'il y a simplement les éléments économiques, on était un peu moins inquiet. On aurait tardé encore un peu plus à revenir à la neutralité puis à la sous-exposition.
Nicolas, comment vous percevez cette question du plafond de la dette qui est revenue un peu de façon inattendue il y a quelques semaines encore? Tout le monde disait non, mais attendez, il n'y aura pas de problème.
Ce qui me rassure un petit peu, on va dire, c'est de voir à quel point le sujet est vraiment politique. On a les élections dans un an aux États-Unis et que les questions qui sont mises en avant par les Républicains dans cette négociation sont avant tout sur les aides sociales. Donc on ne parle pas vraiment de choses qui soient les plus importantes en termes de soutien budgétaire, mais qui sont politiquement par contre extrêmement marquées. Donc je pense que c'est plutôt un jeu politique de la part des Républicains, ce qui me laisse penser aussi qu'ils sont aussi conscients de la gravité de la situation et que évidemment un non-relèvement du plafond aurait des conséquences qui seraient absolument dramatiques. Et je pense qu'évidemment ils le savent. C'est un jeu qui est quand même répété quasiment chaque année maintenant depuis pas mal d'années et qu'on arrive toujours à un accord. Ensuite, ce qui est assez favorable également, c'est que les dernières déclarations qui ont pu avoir lieu depuis hier sont plutôt favorables avec un accord qui est annoncé pour ce week-end et éventuellement un vote pour la semaine prochaine parce qu'évidemment pour le moment le plafond sera atteint donc le 1er juin prochain et donc les problèmes commenceront à ce moment-là. Mais a priori,
on s'est éloigné des déclarations à l'emporte-pièce de Trump sur CNN, quoi.
Oui, non, mais voilà. Alors ça, c'est encore une fois, on est dans un jeu plutôt politique, mais je pense que les autorités économiques américaines sont quand même suffisamment pragmatiques pour éviter ce genre de déconvenues au marché.
Il y a l'autre problème américain qui est celui de la contraction plus large du crédit qui est redoutée par la Fed. Vous avez tous les deux un peu évoqué ces questions bancaires régionales aux États-Unis, mais voilà, au début, les banques centrales ont semblé s'en réjouir. Elles ont même laissé entendre dire ça fera l'équivalent d'un 25 points de base en plus qu'on n'aura pas à faire. Et puis là, on voit dans le discours notamment de Janet Yellen que elle se dit si ça dérapait un peu, ça pourrait finir par être gênant. Vous le redoutez, vous aussi, cette question de la contraction du crédit?
Ça rejoint la question du consommateur, parce que finalement, il n'y a pas récession parce que le consommateur tient. Il tenait pour deux raisons. La première, c'est que...
Il y a le financement des entreprises aussi.
Il y a le financement des entreprises, mais je dirais que l'élément... Le financement des entreprises, il est déjà fragilisé. On voit plutôt des rachats d'actions, on ne voit pas tellement d'investissements. Donc c'est la patte plutôt consommation qui tient avec finalement l'après période de confinement où il y a eu finalement une épargne assez forte qui arrive comme un matelas de sécurité qui permet de consommer. Et puis, il y avait ce que vous mentionnez, c'est-à-dire qu'il y a encore finalement un marché du travail qui se tient extrêmement bien par rapport à un manque de salariés et des hausses de salaires qui font que la consommation peut tenir. Et on voit que dans les deux cas, eh bien, une grosse partie du matelas a été consommée et que sur les salaires, malgré le fait qu'on ait un taux extrêmement bas à 3,4% de chômage, eh bien, le salaire n'a plus augmenté que de 4,4, a diminué. Donc s'il n'y a pas ce relais du crédit, en effet, ça peut caler, mais je dirais que le point à surveiller, c'est vraiment la consommation des ménages, et là, ça peut commencer à fléchir, en effet, et c'est un des éléments possibles, c'est-à-dire que ça a tenu jusqu'à présent. Mais c'est pas parce que les économistes sont un peu trompés, on était un peu en avance sur le phénomène récessionniste en pensant qu'avec le durcissement du crédit et avec finalement l'assèchement de la consommation, la récession allait venir, qu'elle ne viendra pas à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait surtout sur les services, la consommation à l'heure actuelle, plus que sur les biens. Et sur les services, si à un moment donné il y a plus de doutes, la psychologie du consommateur peut changer plus rapidement. sur les services, si on programme des vacances ou quelque chose, voilà, si on a des doutes, eh bien, c'est des choses qu'on peut annuler. C'est pas comme un renouvellement de PC ou voilà. Donc, c'est une consommation qui est déjà plus fragile et plus psychologique. Donc, il peut y avoir vraiment des phénomènes de retournement, en effet. Et c'est une des raisons pourquoi, voilà, on a quand même envie d'écréter les positions d'ici quelques semaines.
Vous le craignez aussi, vous, cette contraction du crédit aux États-Unis ?
Alors oui, parce qu'on voit que les chiffres sont quand même assez négatifs de ce côté-là. Et effectivement, il y a une logique aussi qui est effectivement celle de la différence entre le revenu disponible aux États-Unis et la consommation. Et quand on regarde sur l'intégralité de la période Covid, on voit que le revenu disponible a été 400 milliards supérieur pour l'instant à tout ce qui a été dépensé par les consommateurs américains. Donc c'est encore un matelas qui effectivement qui permet de voir venir pour les prochains mois. Par contre, effectivement, à partir du moment où cette réserve-là sera asséchée, le crédit aura un impact sur le consommateur alors qu'il a déjà un impact sur l'investissement. Donc c'est pas encore forcément dramatique dans la situation.
Donc il faut le surveiller sur l'avenir.
Oui, évidemment, il faut le surveiller et c'est sans doute la raison qui explique la dissonance qui peut commencer à exister au sein du board des gouverneurs de la Fed, c'est de voir des gouverneurs qui veulent plutôt se donner du temps pour essayer d'évaluer la situation et à quel point justement il serait nécessaire de relever les taux ou non. Et je pense que l'opposition va se faire de plus en plus forte dans les prochaines semaines parce qu'on voit effectivement certains acteurs qui veulent aller plus loin et d'autres vraiment veulent se donner du temps pour éviter de casser la machine si jamais on commence à avoir des chiffres négatifs et de ne pas être vraiment à un niveau trop élevé pour endommager la croissance fortement. C'est ce pourquoi je pense qu'on peut quand même être positif sur les États-Unis, c'est d'avoir, on sait qu'on a une équipe qui est au sein du board de la Fed qui est quand même très pro-croissance, même s'ils veulent lutter contre l'inflation, vraiment à partir du moment où on aura des impacts.
Ils n'oublient pas leur deuxième pilier.
Non, ils n'oublient pas du tout leur deuxième pilier et c'est quand même une source de sécurité qui est quand même relativement importante.
Voilà donc pour ce côté américain. Et puis, je le disais dans les sujets qui posaient question sur les marchés, il y a aussi tous les moteurs qu'on attendait et qui répondent pas forcément présents, notamment celui de la Chine. On a eu quelques chiffres, notamment au tout début de semaine, qui n'ont pas été ultra favorables. Quelle est votre lecture sur ce plan ? La Chine déçoit vraiment ?
Sur les importations, on a vu que oui, il y a vraiment eu des chiffres. C'était la semaine dernière sur les importations qui étaient vraiment fortes.
Des ventes de détail.
Oui, oui. Et pourtant, c'est le moteur au niveau de la consommation chinoise qui pourrait fonctionner déjà un peu plus que le reste. Donc, on voit qu'en termes d'investissement, en termes d'import, oui, ça, c'est comme d'habitude. Il y a un peu un rebond après la période post-confinement. Mais ce rebond, il est quand même moins puissant. Il y a peut-être aussi une forme, je dirais, de régionalisation malgré tout. Donc, pour nous, indirectement, on a vu que certaines valeurs avaient été jouées pour profiter du marché chinois. Mais quand on regarde les flux réels, ils sont quand même moins puissants que ce qu'on pouvait attendre. C'était un des éléments vraiment espérés qui a été au-delà de toutes les espérances sur la réouverture de la Chine. Des gens l'anticipaient de manière progressive. Il y a une forme de déception malgré tout. Peut-être que le point, c'est que il n'y a pas d'inflation en Chine, donc il y a des possibilités de relance marquées par le gouvernement chinois. Donc, dans les éléments à venir, il y a la possibilité d'un plan de relance chinois qui peut intervenir. Modulo le fait que l'économie est déjà bien endettée malgré tout, mais c'est un élément supplémentaire à un moment donné qui pourra apparaître.
Ce redémarrage chinois, il avait vraiment émoussié les marchés qui en sont de fait un peu revenus, non ? Nicolas.
Oui, mais je pense que ça fait. Enfin, la stratégie de Xi, qui est de mettre en avant justement la relance de la consommation comme un moteur important pour la croissance chinoise, pour la restructurer la croissance chinoise, c'est quelque chose qui est martelé quand même depuis plusieurs années maintenant et qui en fait peine à trouver une réalité sur le terrain. Ce qu'on constate aussi, alors déjà il y a cette problématique-là, et je ne pense pas qu'en fait que même s'ils feront quelques soutiens aux consommateurs, mais que ce soit suffisamment structurel pour pouvoir changer cette mécanique-là. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point dans cette logique de redémarrage de la consommation chinoise, les Chinois en fait consomment surtout en local. On le voit notamment sur l'automobile. On voit effectivement ce qui se passe sur notamment de l'Allemagne. Et la grande inquiétude de l'Allemagne, c'est de voir que en fait eux, ils ont perdu maintenant le leadership sur le marché chinois. Les acteurs locaux tiennent le marché maintenant. Et par contre, les exportations d'Allemagne vers la Chine se sont considérablement réduites. Donc ils construisent là-bas certes, mais même là-bas sur le terrain, ce sont les constructeurs chinois qui tiennent le marché. Donc je pense que ça répond un peu à la douce illusion, je pense, que les Occidentaux se sont fait depuis 20 ans sur le marché chinois, c'est-à-dire en pensant que le jour où vraiment la consommation chinoise démarrera, nous en profiterons. Évidemment, le jour où la consommation chinoise démarrera, effectivement...
Ce sont les entreprises chinoises locales qui en profiteront.
Qui vont en profiter, exactement.
Et on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine, parlons un petit peu de l'Europe quand même, peut-être aussi un peu de BCE aussi. Quel est votre sentiment pour notre zone finalement ? Parce qu'on a dit pendant les premiers mois de l'année, ça y est, c'est l'année de l'Europe, les marchés.
Oui, c'est l'année de l'Europe en termes de choix sectoriels. À long terme, on voit bien que les vrais grands moteurs de croissance, ils sont en Chine et aux États-Unis. Il faut absolument une diversification, bien sûr, dans ces zones, parce que on peut le citer tous les domaines technologiques. L'Europe est toujours en retard en la matière. Donc, c'était plutôt les choix sectoriels. Ce qui est juste intéressant en ce moment, c'est que, et justement, c'est peut-être un élément qui empêche le marché de trop baisser, c'est qu'on voit des relais à la fois sur les valeurs de croissance US, qui, elles, restent un relais solide et pas de doute. C'est-à-dire qu'en début d'année, on quittait les valeurs défensives pour faire soit des cycliques européennes, soit des valeurs de croissance US. Mm-hmm. Et que le moteur cyclique, on a pu changer en cours de route pour revenir sur des défensives, alors que le moteur croissance US reste très puissant. Pour beaucoup de raisons, hein, la valorisation, le rachat d'actions, la trésorerie pléthorique, et puis aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est favorable. Et on voit aussi d'autres marchés, comme le marché japonais aussi, qui est un marché oublié, qui, alors peut-être par rapport à la forme de régionalisation, par rapport au yen qui est faible, mais vraiment des valeurs exportatrices fortes. Donc on voit aussi un relais. Donc un marché européen qui faisait la course en tête, et au moment où on pouvait plafonner ou baisser, voit finalement d'autres marchés qui le relaie. Et donc, alors qu'il paraissait un peu une anomalie en termes de valorisation, et donc pouvait être mis à mal, et que d'autres zones géographiques pouvaient être jouées, ces autres zones géographiques ont été jouées. Donc sa surperformance diminue, et il perd en même temps de sa fragilité. Mais on le voit bien, le cas typique, c'était les chiffres qu'on avait pu voir sur le PIB, avec un PIB allemand qui calait, et puis c'était les zones du sud, avec là encore les services qui fonctionnaient avec le tourisme. Donc ça manque de qualité quand même dans cette croissance européenne.
Oui, parce qu'il y a une problématique quand même relativement forte au sein de la zone euro, c'est que la BCE agit comme si elle réagissait à un surplus de demande qui serait excessif au sein de la zone euro. Si je regarde simplement les chiffres de la consommation, depuis fin 2019 aux États-Unis, on est à plus 8,5, ce qui correspond à peu près à 4 ou 5 années de croissance de la consommation. En zone euro, on est à moins 0,9% depuis cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel qui est absolument gigantesque entre les deux zones économiques. Malgré cela, la BCE agit comme si elle était aux États-Unis, c'est-à-dire avec une espèce de surchauffe. Et donc, on a les résultats qu'on a aujourd'hui, justement, grâce à ça. Et donc, on ne peut pas s'attendre à une croissance de la demande intérieure au sein de la zone euro, parce que, justement, on a une BCE qui souhaite la faire ralentir, alors même qu'elle n'a même pas retrouvé son niveau de fin 2019.
Allez, on termine par un petit peu de marché action maintenant, histoire de donner quelques conseils. Vous avez commencé en disant on va peut-être oui. Donc là ça chauffe chez Vega.
Ah bah oui. Donc
on ajuste, on coupe, on restructure,
dès la semaine prochaine on va passer à la neutralité, justement en écrétant ces valeurs européennes. On a envie de conserver le moteur de la tech US, qui nous semble toujours un relais intéressant. On avait opéré une rotation justement vers des valeurs défensives. On va vers quelque chose de plus neutre en termes européens par rapport à ce relais, et on pense que avant l'été, on touchera peut-être un point haut pendant quelques temps, et donc là on passera sans doute à la sous-pondération des marchés à ce moment-là. Donc il y a peut-être encore quelques pourcents à gagner qui nous semblent intéressants. Donc on a tenu tant qu'on a pu, quoi, je dirais.
Mais toujours dans une exception, grande valeur, large cap.
Oui, même si dans les
parce
valeurs...
Parce que certains nous disent ça commence à frémir du côté des mid and small. C'est pas votre genre de beauté.
Alors, alors on n'a pas perdu grand chose cette année, mais le peu qu'on a mis sur les valeurs moyennes, ça a été très déceptif. Donc ça, c'est assez étonnant. Ça frémit pas justement trop, et c'est un peu la surprise, parce qu'en termes de valorisation, c'est vraiment très peu cher. Et ça rejoint l'idée que c'est un marché de flux. Et les flux sur le marché européen sont totalement absents. Donc les gens font des trackers, des grandes valeurs, etc. Ont pas été sur les valeurs moyennes. Vont parfois sur du private equity qui est plus cher, moins liquide. Donc c'est vrai que si j'étais un gérant mid-cap, je serais un peu déçu. Ouais. Et il y a matière à l'être. Et il peut y avoir un réveil. Donc on surveillera l'élément de flux. Si l'élément de flux arrive, en effet, il y a un potentiel sur le marché des mid qui peut survenir. La surprise, c'était que dans un marché risk-on, les mid n'ont rien fait cette année. Oui.
Nicolas, comment vous ajuster un petit peu le tir chez Financière de la Cité.
La chose principale, c'est le sentiment de marché aujourd'hui, avec des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, qui pronostiquent des coupes de taux de la part de la Fed pour le reste de l'année. C'est-à-dire, en gros, que le marché anticipe plus ou moins une récession et donc une réaction de la part de la Fed par rapport à ça. Et nous, c'est un discours qui est. Enfin, le marché est donc en opposition avec ce que dit la Fed elle-même. Parce que la Fed, elle considère qu'elle va garder ses taux soit au niveau actuel tout le reste de l'année, soit éventuellement un peu plus haut et rester à ce niveau-là, en pronostiquant plutôt un soft landing du côté américain et donc une poursuite de la croissance. On est plutôt sur le scénario de la Fed et donc plutôt à l'opposition vis-à-vis du marché, c'est-à-dire qu'on considère que la Fed effectivement est justifiée dans ses attentes et qu'elle considère, enfin, et que les chiffres qui sont pour l'instant publiés effectivement sont plutôt de nature à venir consolider la vision qui est pronostiquée par la Fed et qui est par contre un peu près l'inverse de ce qui est pronostiqué aujourd'hui par le marché, parce qu'on ne voit pas justement cette récession arriver pour le moment. Ensuite, les choses peuvent évidemment évoluer, mais pour le moment, encore une fois, ces chiffres sont plutôt favorables, donc ça nous donne quand même une position qui est plutôt favorable à la croissance pour la suite, et par contre un décalage important sur ce qui peut se passer sur les taux, parce qu'on ne voit pas comment la Fed aujourd'hui pourrait baisser ses taux dans les prochains mois, encore une fois au vu des données qui sont aujourd'hui publiées. Donc on verra pour la suite, mais pour le moment, en tout cas, je ne pense pas que le scénario du marché aujourd'hui soit réel.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé autour de toutes ces thématiques. Donc Nicolas Gutzmann pour La Financière de la Cité et Jean-Jacques Friedman pour Vega IM. Très bonne fin de semaine à vous et bon week-end. Le marché parisien, lui, pour le moment, progresse toujours un petit peu. Hein, 0,64%, on regarde les 7500 sans vraiment oser s'en approcher. On va voir ce qu'en dit en tout cas techniquement Romain Daubry, qu'on retrouve dans un instant. Il nous attend au sein de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file sur les marchés, c'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure. Donc Romain Daubry qui nous attend depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et qui garde un œil attentif sur ce marché et ses sorcières. On rêve des 7500.
Oui, ça paraît plausible ce niveau-là. Encore une fois, on sort d'une période de consolidation hein, d'un mois, et puis on a des signaux forts du côté des indices américains. En courant et en début de semaine, on a des petits signaux de faiblesse possible du Nasdaq, petits signaux qui se sont rapidement invalidés sur fond de détente du côté du plafond de la dette aux États-Unis. Et on est allé chercher sur le Nasdaq une zone cible 13720, 13842, qui est une cible de moyen long terme, hein, qui était une structure de retournement haussière sur le Nasdaq qui s'était mise en place en fin d'année dernière et qui s'est validée et développée en début d'année depuis janvier. Donc c'est un mouvement de long terme qui s'est mis en place. Alors quand on atteint une cible comme ça, ça ne veut pas dire vendre pour autant ou retournement de tendance, c'est même plutôt un signe de force. Et puis on a le S&P qui bute toujours sous notre fameux gap, on l'a évoqué ensemble plusieurs fois, du 22 août dernier, et il est allé s'arrêter, le pied du gap c'est 4203, il est allé s'arrêter à 4202 et quelques hier soir, donc il le frôle. S'il arrive à déborder ce gap 4203, 4218, on pourrait considérer qu'on réactive la tendance haussière vraiment, même si pour moi c'est depuis novembre dernier sur le S&P un niveau d'accumulation manifestement du potentiel qui est en train de se mettre en place. Alors on reste vigilant parce que c'est une journée d'échéance, c'est une journée technique. Donc, est-ce que ce mouvement est juste lié à des phénomènes techniques et de contre-pied au moment d'un moment de changement d'échéance? Moi, j'y vois plus que ça. Il y a effectivement de l'activité. On le voit. Donc, sur l'indice CAC 40, au-delà de 7435, on est en train de déborder. Il y a une petite résistance intermédiaire, 454. On bute dessus. Derrière, c'est 7529 et pourquoi pas 7598, la cible du mouvement qu'on est en train de mettre en place. Notre alerte de court terme, je le rappelle, la première, c'est 7372 et le retournement à court terme, c'est la zone 7287, 7277. Ce sont pour l'instant des niveaux qui s'éloignent et du potentiel, de l'intérêt. On le disait, il se passe des choses sur des small et mid caps. On a pas mal d'arbitrage du côté du jeu vidéo. On l'a vu sur Garbet aussi, qui se comporte assez bien. Et puis, dans le CAC 40, sur les grosses capitalisations, si on a du mal à payer encore des valeurs du luxe qui consolident en partie haute, on voit qu'on ne les vend pas pour autant. Elles consolident vraiment en partie haute. Il n'y a pas de retracement marqué du tout. Puis il y a des foyers de hausse et de potentiel d'intérêt sur d'autres. On voit Dassault Systèmes qui réactive une dynamique haussière. On a Worldline qui est peut-être dans une structure de retournement de long terme, qui n'a pas encore sorti, qui n'a pas encore confirmé, mais ça laisse du potentiel. Et puis parmi les secteurs et des valeurs intéressantes aussi, on a identifié du potentiel sur les équipements anti-automobiles. Valeo et Faurecia se comportent assez bien graphiquement et elles sont en passe, notamment pour Faurecia, de réactiver un mouvement haussier de long terme. Donc il y a manifestement des foyers d'intérêt de l'activité encore sur ce marché. Même si effectivement la volatilité se détend un petit peu, on reste quand même autour de 16 sur le VIX, sur le S&P. Pour passer en complaisance, ce serait sous 15,40 et il faudrait y rester quelques temps avant de considérer que le marché est vraiment complaisant. Donc on est en optimisme maintenant, mais pas un optimisme BA.
Merci beaucoup Romain Daubry, donc Bourse Direct, qui nous accompagnait ce vendredi pour lire techniquement le marché du jour, le CAC 40 donc qui grignote 0,55%, 7487 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
L'heure de retrouver les équipes de Morningstar et Mara Dobrescu qui nous accompagnent ce matin. Bonjour Mara.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là. Nous allons parler des fonds d'obligations high yield, les obligations qui, on le rappelle, sont devenues plus attractives au cours des derniers mois. Est-ce le moment pour autant de prendre du risque en allant sur une dette plus risquée ?
Alors c'est un constat assez classique. Dans les périodes où on a eu une hausse rapide des taux d'intérêt, les investisseurs tendent à réallouer leur portefeuille sur les obligations au détriment des actions parce que les obligations commencent à générer des rendements plus intéressants et offrent une meilleure protection à la baisse. Donc dans ce contexte, oui, il peut être tentant de se tourner vers les obligations qu'on appelle high yield, donc celles dont la note de crédit est inférieure à BBB-, qui sont les plus rémunératrices et les moins sensibles au risque de taux d'intérêt. Mais il y a une raison pour laquelle elles sont plus rémunératrices, c'est que cela récompense une prise de risque plus importante, le risque que l'émetteur fasse défaut, d'où l'importance de choisir un gérant spécialisé qui va être capable d'analyser les émetteurs dans leurs moindres détails et éviter ceux qui ont la santé financière trop fragile.
Du coup, vous nous conseillez d'aller sur de la gestion passive. Est-ce qu'il vaut mieux choisir un ETF aussi quand on s'intéresse à ces obligations high yield ? Parce qu'on voit que partout, cette gestion passive, elle a plutôt le cœur des opérateurs.
Oui, et puis c'est souvent plutôt ce vers quoi nous orientons aussi les investisseurs. Mais à l'inverse, sur le high yield, c'est vraiment l'un des marchés où la gestion active, pour le coup, s'en sort mieux que la gestion passive. Et ce, parce que les ETF, eux, sont construits de manière assez simpliste, en prenant tous les titres qui ont un rendement élevé. Et statistiquement, on sait du coup que sur le long terme, certains de ces titres vont faire défaut. Le taux de défaut de long terme sur le marché européen est d'environ 3%, par exemple. À l'inverse, un gérant aguerri qui va choisir lui-même ses titres va être beaucoup plus sélectif pour éviter les entreprises susceptibles de faire défaut. Et il faut savoir que c'est aussi un marché qui est moins efficient. Il y a beaucoup d'entreprises qui émettent de la dette à yield qui ne sont pas des entreprises cotées, donc il y a moins d'informations librement disponibles sur le marché. Il y a un réel avantage à faire de la recherche sur les émetteurs. Il y a aussi moins de liquidités, donc ça demande de l'expérience en trading, mais aussi ça donne les opportunités de parfois exploiter certaines anomalies de marché. Tout cela fait que les fonds actifs sont en fait bien positionnés pour réussir. À une condition, bien sûr, c'est que les frais doivent rester raisonnables.
Du coup, on pioche dans votre base et on trouve quelques fonds pour illustrer le propos ?
Oui, il y a plusieurs fonds qu'on peut mentionner, notamment le Robeco High Yield Bonds. C'est un fonds géré par un duo vétéran, deux gérants qui sont depuis 25 ans à la tête de ce fonds. Et un portefeuille ici très diversifié sur environ 250 émetteurs. Une bonne attention qui est portée à la liquidité. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, quand le fonds a trop grossi, les gérants ont préféré le fermer aux nouvelles souscriptions, se privant ainsi de profits à court terme, mais pour ne pas mettre en danger la performance des investisseurs existants. Et c'est un fonds qui est noté gold sur sa part la moins chère. On peut aussi noter le T. Rowe Price Global High Yield. Là, on a deux gérants expérimentés, mais aussi 18 analystes qui sont dédiés au marché du high yield. Au sein d'une société de gestion, T. Rowe Price, qui est l'une des plus vertueuses, selon nous, dans la prise en compte des intérêts des investisseurs. Et c'est un fonds qui va être noté silver sur sa part la moins chère. Et enfin, le Candriam Bonds Global High Yield. Là aussi, il y a une équipe très solide, même si elle est un peu moins nombreuse que celle du fonds T. Rowe Price. Sur le fonds Candriam, on a un gérant actuel, Thomas Joret, qui a repris la main en 2020 après avoir co-géré le fonds pendant 4 ans aux côtés de plus expérimenté Philippe Noyard. C'est un fonds où la sélection de titres a été très robuste sur le long terme, ce qui lui a permis de bâtir un excellent track record. Il est noté bronze sur sa part la moins chère.
Merci beaucoup Mara Dobrescu, analyste de fonds qui nous répondait depuis Morningstar. Bonne fin de semaine. Mara, le marché parisien qui progresse de 0,55%. Pour le moment, on est à 7487 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et c'est François Monnier qui est en plateau de retour pour répondre à toutes vos questions. Prêt François ?
Je suis prêt.
Directeur de la rédaction d'Investir, et cette question que vous envoie Charlotte, pour les publications du CAC 40, n'ont pas fait monter. Pourquoi les publications du CAC 40 n'ont pas fait monter les actions ?
C'est vrai qu'on en veut, toujours plus. Hein. D'abord, il faut noter que on a déjà un marché qui a progressé de près de 14%. Donc, pour que ça continue de monter lorsqu'on fait une annonce, il faut que l'annonce soit vraiment spectaculaire. Ce qu'on peut n'a pu observer maintenant qu'on a un tour d'horizon complet des publications du CAC 40, on a une croissance qui est forte. C'est plus de 7%, 7,6%. Mais en moyenne, finalement, les titres, ils ont reculé de 0,3%. Donc, concrètement, il s'est rien passé. En tout cas, au niveau boursier. Mais d'abord, ça, c'est la moyenne. À l'intérieur de cette moyenne, il y a quand même eu quelques réactions qui ont été fort sympathiques. Hein. On a eu Essilor Luxottica ou LVMH qui ont gagné près de 6%. On a eu Crédit Agricole qui a gagné 5%. Et puis, on a eu Schneider Electric qui a pris 4%. Donc, on a eu des hausses soutenues. On a eu quand même quelques baisses marquées. Téléperformance, moins 14%. C'est plutôt rare chez ce titre-là. On a eu la tech quand même qui a subi de forts dégagements. Hein. ST Micro a perdu 9. Dassault Systèmes a perdu 7. Et puis, on a eu dans l'automobile Renault qui a perdu 8%. Donc, entre un moins 14 chez Téléperformance et un plus 6 chez LVMH ou chez Essilor. Voilà. Donc, il y a eu quand même des arbitrages qui ont été marqués parce qu'il y a eu quelques déceptions et puis eu des bonnes nouvelles. Du côté des déceptions, elles sont plutôt rares. On a eu finalement que 3 entreprises qui ont revu à la baisse leurs attentes sur leurs prévisions. On a eu Alstom, on a eu ArcelorMittal et puis Téléperformance. Donc bien sûr, ces alertes ont provoqué quelques ajustements de la part des analystes. Et puis on a eu quand même des révisions à la hausse. Elles sont plutôt très rares. Hein. Il faut voir que généralement, au premier trimestre, les chefs d'entreprise n'aiment pas revoir à la hausse leurs attentes parce que, on est vraiment qu'au tout début.
Mais c'est ça, ils ont pas encore tous les...
Souvent, c'est un trimestre qui est plutôt timide. La fin d'année, quatrième trimestre, c'est généralement un très gros trimestre, et le deuxième trimestre aussi. Donc il faut voir que ça, c'est plutôt rare, mais Schneider Electric s'est senti confortable pour être un peu plus ambitieux, et on sait que le luxe a commencé de façon très très fort l'année, notamment LVMH ou Hermès. Donc on a quand même des dirigeants qui globalement sont confiants, donc c'est pas parce que ça a pas réagi boursièrement en moyenne qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Non, les dirigeants sont confiants, leurs bilans sont plutôt sains et on voit quand même pas mal d'acteurs qui ont, j'ai envie de dire, qui ont quelques réserves et qui pourront probablement à la fin du semestre, donc c'est-à-dire lors de lorsqu'ils vont dévoiler leur compte du deuxième trimestre au cours du mois de juillet, eh bien cette fois-ci revoir. Et les réactions promettent d'être beaucoup plus importantes, les réactions boursières promettent d'être beaucoup plus importantes lors de la publication des comptes du premier semestre de cette année. Donc il n'y a pas
de raison. Donc un peu de patience pour Charlotte.
Voilà, il faut juste être un peu patient parce que voilà, on a eu quand même déjà une belle vague de hausse, donc maintenant on est plutôt dans une période de digestion et l'impact sera beaucoup plus important cet été.
Voilà Charlotte, un peu de patience, ça réagira peut-être un peu plus au mois de juillet. Question d'Albert, croyez-vous en la reprise économique chinoise et comment en profiter en bourse ? C'est vrai qu'il y a eu des doutes quand même. Hein,
là. Oui, là aussi j'ai envie de dire, il faut de la patience. On voit des signes déjà tangibles, de forte accélération de la consommation, des voyages, à l'intérieur des frontières chinoises. Ça profite pas au reste du monde, mais la reprise elle est là parce que il y a plus de mesures sanitaires drastiques depuis le début de l'année et donc les gens voyagent fortement et donc on le voit hein, la consommation de produits de luxe déjà rien qu'on l'a vu au premier trimestre et on risque de le voir encore au deuxième trimestre, ça a fortement profité à Hermès ou LVMH. On voit qu'il y a un vrai appétit pour les voyages, pour le tourisme, et on voit que par exemple des actions comme Amadeus qui gère les réservations pour les compagnies aériennes avec leur logiciel, eh bien il y a de la demande. Donc elle est là. Simplement, on le voit.
Elle est peut-être moins forte qu'on l'espérait. On avait peut-être été trop ambitieux.
Disons que c'est une reprise qui est concentrée plutôt sur les services. que sur l'industrie, alors que les reprises chinoises antérieures étaient concentrées plutôt sur l'industrie, parce que dès qu'il y avait une reprise économique, qu'est-ce qu'on faisait ? On construisait des routes, des barrages, des immeubles, et on le sait que le secteur immobilier ou les infrastructures, il y en a peut-être trop, et on sait qu'il y a beaucoup de promoteurs chinois qui sont en très mauvaise santé. Mm-hmm. Donc ça, c'est une reprise que j'ai envie de dire qui est vraiment atypique, et donc peut-être que ça se corrigera dans les mois ou les trimestres, mais concrètement, il ne faut pas s'attendre à une reprise, entre guillemets, industrielle au deuxième trimestre, alors qu'on aurait pu l'espérer en janvier. Elle va être vraiment concentrée sur les services.
Donc, ça, on se base sur les services pour en profiter en bourse.
Pour un portefeuille, il faut plutôt avoir du service. On aime bien, par exemple, JC Deco, qui n'a pas encore fortement monté en bourse, parce que normalement, c'est une vraie valeur chinoise. Et ça profite le fait que les Chinois se mettent à voyager, qu'ils prennent le métro et l'avion à l'intérieur des frontières. Mais JC Deco a perdu des contrats en Chine, donc c'était au mauvais moment. Donc, l'action n'en a pas encore profité. Mais je pense que le deuxième trimestre devrait être meilleur. Donc, JC Deco, ça me paraît intéressant. Amadeus, je pense que c'est intéressant. Après, il faut peut-être être un peu plus prudent sur l'hôtellerie, parce qu'on estimait que peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de Chinois cet été. Et là, peut-être, ça a déjà été très joué. Hein. On voit Accor a fait un formidable parcours depuis le début d'année. Mais peut-être que la clientèle chinoise sera encore un petit peu timide cet été, parce que il faut traverser la Russie. C'est 3 heures de plus, donc c'est contraignant. Donc on voit que ça va être peut-être la petite déception sur le tourisme chinois cet été. Et ça, c'est dommage, parce qu'un touriste chinois, c'est un touriste qui consomme quasiment 7 fois plus qu'un touriste lambda. Donc il y a des acteurs qui vont peut-être en pâtir. En tout cas, la saison sera peut-être un peu moins brillante que prévu.
Donc plutôt du service, Albert, que de l'industrie.
Absolument.
Pour profiter de la Chine. Question de Bernard. Que lui conseillez-vous l'achat d'Eiffage ?
Eiffage, oui, je pense que c'est un très bon titre. C'est un titre qui est pas cher et qui, dans le contexte actuel, je préférais presque avoir de l'Eiffage que du Vinci. Alors parce que Eiffage fait un.
Parce qu'il y a toujours un match, de toute façon.
Oui, il y a toujours un match, mais là, vous avez de l'Eiffage qui est vraiment pas cher aujourd'hui. C'est un ratio de cours sur bénéfice de 10 fois quand le CAC 40 est à peu près à 14 fois. Et on a l'avantage avec Eiffage de plusieurs choses. D'abord, on l'a vu, au premier trimestre, il y a eu une belle croissance de près de 13%. On a une croissance sur les travaux, on a une croissance sur la construction. Et cette croissance se matérialise par l'amélioration des bénéfices. Sur la construction, j'avais dit, c'est plutôt la bonne surprise, hein, parce qu'on voit que le carnet de commandes continue de croître de 15%. Et là, on avait des doutes, voire des gros doutes. Parce que Eiffage, on le sait, est présent dans la production de logements neufs. Et la production de logements neufs, quand on voit les performances d'acteurs comme Nexity, on sait que c'est un secteur qui est extrêmement difficile, qui broie du noir, parce qu'avec la hausse des taux, la demande
immobilier est vraiment bloqué.
A fait pchit. Mais finalement, ça pèse pas si lourd que ça dans les comptes d'activité du pôle travaux d'Eiffage. La rénovation, ça marche très très fort et la demande risque de continuer dans les mois et les trimestres à venir. Et puis, on a des grosses demandes sur les infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qui va perdurer. Il y a quelque temps, on parlait des grands contrats, des grands projets européens. Voilà, à un moment donné, ça se matérialise. Donc, on a un acteur finalement qui est capable d'avoir un carnet de commandes qui croît de près de 15%. Ça ne veut pas dire que ça aurait pu être encore mieux si le marché du logement neuf était dynamique. Mais sans ça, ils arrivent quand même à se développer. Et puis, quand on regarde les concessions, APRR a fait une progression de près de 6% au premier trimestre. Sur les aéroportuaires, ça repart. C'est pas encore au niveau avant Covid, mais la croissance. Donc finalement,
là aussi, on attend les touristes chinois.
On attend un petit peu les touristes chinois, mais globalement, voilà, les gens se remettent quand même à bien voyager. Donc, on a la possibilité de rentrer sur un acteur qui est dynamique, en forte croissance, une croissance rentable pour un prix qui est extrêmement faible, 10 fois les bénéfices. Donc, on a envie d'être actionnaire, et c'est même un achat fort chez Investir.
Donc plus Eiffage que Vinci.
Plus Eiffage que Vinci aujourd'hui, parce que le titre est moins cher, et tout est aujourd'hui dans le vert.
Question de Rachel, que pensez-vous du titre Elis ?
Elis, ça a fait déjà un beau parcours, hein. C'est un titre qui a gagné près de...
En fait, ils sont tous concertés pour nous parler quasiment que de valeurs liées à la Chine.
Que liées à la Chine, sauf que là c'est pas français, c'est un acteur européen.
Oui, mais bon, s'il y a des touristes chinois...
S'il y a des touristes chinois,
bon, mais pour l'instant, j'arrête de vous taquiner.
Je pense qu'ils profitent plutôt des touristes européens. Donc très très bon premier trimestre. Là, ils ont fait un trimestre avec des revenus supérieurs à 1 milliard, donc ça commence à parler. On est dans la blanchisserie industrielle et Elis fait à peu près un quart de ses revenus avec l'hôtellerie, la restauration. Et maintenant qu'il n'y a plus de crise sanitaire, donc les gens se mettent à voyager et à aller davantage au restaurant, même si, attention, le deuxième trimestre peut être un petit peu plus difficile parce que les manifestations sociales qu'il y a eu en France, mais aussi en Europe, fait que l'activité hôtellerie-restauration a été plus molle que prévu. Et ça se ressent un petit peu partout en Europe. Et donc le mois de mars, avril, mai a été, j'ai envie de dire, peu dynamique dans ce secteur-là. Mais globalement, Elis, la beauté du modèle économique, c'est qu'ils arrivent à faire passer des très fortes hausses de prix. Mmh. Donc chez Elis, pour vous donner une idée, au premier trimestre, ils ont fait une croissance de 22%. Vous avez à peu près 7% lié à la hausse des volumes et vous avez 11% lié à la hausse des prix.
Oui, donc un vrai pricing power.
Donc là, il y a du vrai pricing power aujourd'hui et ça, bien sûr, ça rassure les investisseurs. Et donc, sur l'ensemble de l'année, la société est assez confortable pour faire une croissance allée de entre 11 et 13%. 11%, c'est s'il y a un vrai ralentissement économique en Europe. Autrement, ce serait plutôt 13%. Et avec une amélioration des profits de l'ordre de 20%. Donc c'est un titre qui est aujourd'hui séduisant en bourse, qui n'a pas réagi lors de sa publication parce que lorsque la direction a dit que le climat social, les manifestations avaient ralenti un petit peu l'envie d'aller au restaurant, eh bien ça a calmé l'envolée du titre. Donc ça peut être intéressant de rentrer justement quand le titre se met à respirer, que quand le titre est en phase d'accélération. Donc oui, on reste à l'achat sur Elis chez Investir.
Donc faut guetter et effectivement peut-être trouver une porte d'entrée.
Trous d'air, exactement.
Rachel, quand il y a un trou d'air. Stéphane, je voudrais savoir quelles seraient pour vous les meilleures valeurs cycliques.
Quand on parle cyclique, il faut là, c'est vraiment on est dans du love. Entre guillemets, dans du low cost, c'est qu'on veut pas payer très cher, voire on voudrait une action quasiment gratuite. Alors on veut faire des coups. Absolument, c'est plutôt du tactique que du long terme. Parce que qui dit cyclique, ça veut dire des hauts, mais aussi des bas. Alors pour vous donner une idée, un marché aujourd'hui, le CAC 40, ça se paye 14 fois les bénéfices. Donc une valeur cyclique, on n'achètera pas dans une logique de dire valeur cyclique un titre qui se paye 10 fois ou plus. On voudra vraiment avoir un titre vraiment donné. Alors, qu'est-ce qu'un titre donné? Un titre intéressant aujourd'hui dans un acteur cyclique, sachant qu'il y a du risque. Eh bien, par exemple, on achète du Stellantis parce que le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 3, quand le CAC 40 est à 14. Donc, on est sur un titre qui n'est pas très cher et on veut aussi, ceinture et bretelles, on veut du dividende, on veut du rendement. Donc, on cherche aujourd'hui, pour une valeur cyclique, un titre pas cher qui distribue des dividendes au cas où l'action ne serait pas au rendez-vous. Donc avec Stellantis, vous avez un PER de 3 et un rendement de 9. Et là, on dépasse bien sûr l'inflation, on est plutôt confortable. Et donc c'est aujourd'hui un achat fort chez Investir. On a dans cette même logique d'idée, on sort de l'automobile, mais on va plutôt dans les matières premières, chez Imerys. Imerys, eh bien, vous avez un PER de 8 ou de 9 et vous avez un rendement de 5. Et donc là, c'est un titre qui aujourd'hui répond à nos attentes, d'autant qu'il y a toute une histoire avec la possibilité d'avoir d'extraction de lithium en France avec leur mine. Donc vous avez ce qu'on appelle une equity story, une histoire à raconter aux investisseurs. Donc non seulement vous avez du rendement, un titre pas très cher, mais de belles perspectives si on arrive, parce qu'il y a quand même un si, parce que en France, même quand on a des matières premières, c'est pas dit qu'on arrive à les extraire.
Sereinement.
Il y a une procédure, donc c'est pas gagné. Mais globalement, voilà, ils ont de l'or dans les poches. Ça s'appelle du lithium, et le lithium, c'est un composant essentiel
pour les
batteries électriques, pour les voitures électriques. Et puis donc
Stellantis, Imerys.
Stellantis, Imerys. Et après, maintenant, dans les cycliques, il y a aussi ce qu'on appelle les financières. Les financières, donc les banques, les assurances. Et dans les banques, il y a une banque qui est intéressante, c'est BNP, PER de 6. Donc 6, encore une fois, quand le CAC 40 se paye 14 fois, là on se dit, on a une sécurité sur la valorisation et on cherchera aussi du rendement. BNP coche cette case-là, puisque vous avez un rendement de 7%. Donc PER de 6, rendement de 7. Et la société, j'allais dire, BNP, c'est une des banques les plus solides, en tout cas en Europe. Et on a vu qu'avec la crise bancaire aux États-Unis et les déboires de nos amis suisses, bien BNP arrivait à bien naviguer. Et puis après, je rajouterai une dernière valeur.
Une quatrième ?
Dans l'assurance, AXA. AXA, c'est un titre qui déçoit rarement, mais qui se paye que 8 fois que le CAC est à 14, et puis vous avez un rendement supérieur à 6%. Donc là, on a, et chez AXA, on l'a vu, hein, la beauté du modèle économique d'AXA, c'est être capable de dégager des bénéfices par n'importe quel temps, et même pendant la crise et la faillite de Lehman Brothers, la grande crise financière et la récession qui a suivi, AXA a été capable de dégager des bénéfices. Donc on est sur un modèle économique extrêmement résistant. Donc voilà, donc si on veut jouer quatre valeurs cycliques dans quatre thématiques différentes, moi je recommanderais donc Stellantis, Imerys, BNP et AXA.
Eh bien voilà Stéphane, vous avez une réponse très complète. Il nous reste 3 minutes pour répondre à Jean-Paul, qui est actionnaire de Michelin depuis 2018, mais Jean-Paul ne gagne pas d'argent avec ce titre et se demande s'il faut qu'il se résolve à vendre.
Oui, bah c'est vrai que Michelin, j'ai envie de dire, c'était une valeur de bon père de famille qui continuait à se développer. Il s'est avéré que la concurrence, elle est quand même rude dans le domaine des pneumatiques. Que Michelin, la beauté du modèle économique, c'est qu'ils avaient du pricing power, mais qu'il y a un public quand même qui n'est pas toujours prêt à payer toujours plus cher la qualité. Et donc finalement on a Michelin qui s'est dit je vais essayer de me développer un petit peu en dehors du pneu, et ils ont une logique. Aujourd'hui ils font 5% de leur activité en dehors de la vente de pneumatiques, et ils veulent le porter d'ici 2030 aux entre 20 et 30% de l'activité grâce à des acquisitions. Donc qui dit acquisition dit un petit peu de suspense. Donc que va faire Michelin en dehors du pneu, ça crée beaucoup d'incertitudes de la part des investisseurs, et finalement on a un titre qui ne fait pas grand chose depuis 2018, c'est vrai, mais il faut voir que il y a quand même une vraie, il y a deux atouts. C'est que Michelin continue de passer des hausses de prix et de monter en gamme, et ça continue de marcher même si au niveau des volumes ça souffre. Et on a cette fameuse révolution avec la voiture électrique.
Et là, voilà, la voiture électrique. Parce que électrique ou fossile, elle a toujours besoin de roues pour tourner.
Elle a toujours besoin de roues, mais j'ai envie de dire, elle a besoin davantage de pneus Michelin. Et on le voit, les nouveaux véhicules électriques. Un nouveau modèle sur deux est équipé de pneus Michelin. Pourquoi ? Parce qu'une voiture électrique a trois caractéristiques. La première, c'est qu'elle est beaucoup plus lourde. Et plus c'est lourd, plus le pneumatique est important. Vous avez une répartition des masses qui est différente, et vous avez une accélération qui est beaucoup plus forte, donc vous consommez davantage de gomme. Et donc, il faut avoir un produit, j'ai envie de dire, un peu plus haut de gamme, un peu plus structuré. Et là, c'est pour ça que Michelin, aujourd'hui, gagne des parts de marché sur l'électrique. Et donc, ils sont beaucoup plus performants sur l'électrique que sur le thermique. Et ça tombe bien, parce que la croissance, aujourd'hui, elle est plutôt sur l'électrique. Et donc, ça milite pour le fait que, certes, Michelin n'a rien fait depuis 2018, mais on peut penser qu'il va y avoir une nouvelle histoire. Maintenant, bien sûr, les investisseurs veulent savoir un peu que va faire Michelin en dehors du pneumatique et quelles vont être les acquisitions. Donc, il y a un petit peu de suspense, ce qui ne permet pas aujourd'hui au titre de fortement décoller. Donc, on attend de voir.
Donc, ce serait plutôt un pari sur l'avenir.
Donc, c'est plutôt un pari sur l'avenir.
Et Jean-Paul, il vend ou il ne vend pas ?
Moi, je garderai précieusement mes actions Michelin.
Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des auditeurs ce matin. François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, n'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr, et chaque jour, vous le savez, on répond à toutes vos questions. Bonne fin de semaine François, et à la semaine prochaine. Dans un instant, c'est Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Pour 90 minutes business, que nous réservez-vous pour cette fin de semaine ?
On va parler du sommet du G7 qui a commencé à Hiroshima au Japon pour tout le week-end. Des annonces déjà la nuit dernière. On va en parler dans le détail avec Aude Kersulec. On parlera aussi de négociations sur le travail avec les syndicats, d'évolution des seniors, de succès de l'entrepreneuriat. Bref, on a beaucoup de questions à poser à notre invité Benoît Serre, qui sera avec nous dans un quart d'heure. Et puis, on parlera du Royaume-Uni. Comment va le Royaume-Uni en ce moment, 3 ans et demi presque après le Brexit? On va voir un peu les chiffres, en parler avec Patrick Martin-Jeunier, mais aussi avec Jean-Marc et Pierre Kupferman. Cédric.
À suivre donc dans une poignée de minutes, 90 minutes business avec Sandra Gandoin. Le marché parisien, lui, il a pour le moment marqué une petite pause dans son ascension, peut-être vers les 7500 points. On est à 7492 points, on gagne 0,6%. Du côté de l'Eurodoll, on est à 1,0796. Il me reste à vous, c'était un très bon week-end, et à vous donner rendez-vous lundi matin à 10h.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.